Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je suis honorée de recevoir au micro du podcast un éminent membre du GIEC, François Gémen. Politologue, chercheur, enseignant spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, il est notamment le co-auteur du 6e rapport du GIEC. Dans cet épisode, nous avons parlé du GIEC, bien sûr. Et de qui sont les véritables membres du GIEC ? Ce ne sont pas les scientifiques. On a parlé des fameux rapports du GIEC et pourquoi ils ne contiennent pas de recommandations sur les solutions politiques pour le climat, de pourquoi on doit se féliciter que les COP existent et de ce qu'elles permettent de faire malgré tout ce qu'on dit sur elles, de pourquoi les messages d'alerte sont contre-productifs. Mais on a aussi parlé de courage, de bonnes nouvelles ou de matchs de foot. Vous êtes prêts à passer en mode action ? Alors, en route ! Bonjour Monsieur Gémen.
Bonjour.
La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au réchauffement climatique ?
J'ai d'abord étudié la science politique avec l'idée de devenir diplomate et j'ai eu l'occasion à la fin de ma scolarité d'effectuer un stage à New York à la représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies. Et au cours de ce stage, je me suis retrouvé un jour coincé dans un ascenseur avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Et donc, pendant le temps où nous attendions le réparateur de l'ascenseur, il m'a évidemment parlé du risque que la hausse du niveau des mers faisait peser sur l'existence même de son pays, sur le risque de déplacement de population. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout des impacts humains du changement climatique. On était au début des années 2000, on était en 2001. Et donc, le changement climatique, même s'il était évidemment connu, semblait pour la plupart des gens encore un phénomène, un risque assez abstrait, assez lointain. Et donc, j'ai été très sensibilisé à cette problématique des impacts humains du changement climatique. Et donc, contrairement à pas mal de mes collègues qui ont travaillé sur le climat plutôt par amour de la nature, des écosystèmes, etc., moi, c'est vraiment la question de l'injustice représentée par le changement climatique qui m'a amené à ce sujet.
Et donc, vous êtes devenu membre du GIEC. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, ce qu'on y fait ?
Bien sûr. Alors, c'est au départ une organisation intergouvernementale. Donc, même si on qualifie souvent les scientifiques de membres du GIEC, techniquement, les membres du GIEC, ce sont les gouvernements qui vont commander à des chercheurs des rapports d'évaluation des connaissances sur le changement climatique, de manière à pouvoir, par la suite, prendre des décisions politiques ou mener des négociations à partir d'une forme de consensus scientifique. Et donc, les gouvernements vont charger des chercheurs bénévoles qui restent associés à leur université, à leur laboratoire, de conduire une évaluation la plus complète possible de l'ensemble des connaissances sur le changement climatique et de traduire ça dans un rapport aussi complet, aussi lisible que possible. Alors, comme il y a de plus en plus de travaux sur le changement climatique, ça prend évidemment de plus en plus de temps d'en faire la synthèse, raison pour laquelle les rapports d'évaluation sont généralement espacés de 6 à 7 ans. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GIEC ne mène pas de recherche en soi. Le GIEC établit la synthèse des connaissances que nous avons sur les différents aspects du changement climatique. Et donc, les auteurs sont divisés en trois groupes de travail. Le premier qui s'intéresse vraiment à la science physique du climat. Le deuxième dans lequel j'ai été versé et qui travaille sur la question des impacts du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes. Et enfin, le troisième, qui étudie les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Et alors, les scientifiques alertent depuis plusieurs dizaines d'années quand même sur ce fameux réchauffement climatique. Est-ce que ça marche, les rapports du GIEC ? Je vous entendais, je crois, dans une chronique à la radio, disons, il n'y a quand même pas grand monde qui lit les milliers de pages qui sont publiées.
Parce que ce sont pas forcément des rapports qui sont faits pour être lus de la première à la dernière page. Ce sont plutôt des documents à consulter. Voilà, il y a par exemple des chapitres régionaux. Bien, quand on est en Europe et quand on doit prendre des décisions en Europe, on est moins intéressé par les impacts en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est. Mais globalement, je pense que bien sûr, on peut se dire qu'on a crié dans le désert pendant longtemps, etc. Je pense quand même que ces dernières années, il y a un pas important qui a été franchi. Et ce pas important, c'est que d'abord, les travaux du GIEC sont désormais reconnus par tous les gouvernements. Il n'y a pas un discours sur le climat d'un ou d'une ministre du climat qui ne cite pas, qui ne mentionne pas les travaux du GIEC. Donc, on a réussi en quelque sorte à devenir une sorte de référence pour les politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont évidemment prendre tout ça en compte, mais en tout cas, au moins, ils reconnaissent le GIEC comme la référence du consensus scientifique sur le changement climatique. Et puis, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qui était largement atteinte dans la population et que, depuis quelques années, nous avons commencé à nous mettre en mouvement, encore trop timidement, pas assez vite, pas assez fort. Mais voilà, quand on regarde au moment de l'accord de Paris, par exemple, on était toujours sur une trajectoire à plus 4 degrés. Désormais, quand on regarde les engagements pris par les uns et les autres, les États et les entreprises notamment, on est plutôt sur une trajectoire qui nous mène vers 3 degrés. Donc, on n'est pas encore à 2 degrés, pas encore moins à 1,5. Mais malgré tout, on n'est plus non plus à 4 degrés. Donc, je pense que c'est important de reconnaître aussi qu'on a accompli toute une série de progrès, que les énergies renouvelables se sont complètement, démultipliées en termes de potentiel énergétique, que leur prix s'est effondré, et qu'il y a quand même, malgré tout, des signaux qui nous indiquent que, en tout cas dans certains pays, la transition commence à être engagée, commence à s'engager. Maintenant, l'enjeu, c'est de l'accélérer et de l'amplifier. Et je crois que ça pose aussi la question de savoir le type de message qu'il faut envoyer. Moi, je pense pas que il faut encore envoyer des messages d'alerte, par exemple. Je pense qu'il faut essentiellement maintenant dire aux gens ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les solutions, comment ils peuvent aider et ce qui est à leur portée. Et j'ai parfois tendance à considérer que des messages d'alerte sont un peu contre-productifs parce qu'ils retardent l'action et qu'ils restent cantonnés à la question de l'alerte sans passer à la question des solutions. Et c'est une vraie question aussi pour la manière dont les rapports du GIEC sont organisés et sont présentés. Je trouve que les rapports devraient davantage maintenant mettre l'accent sur les solutions, par exemple.
Effectivement, je vous entendais dire que comme les rapports sont commandés par les gouvernements, oui. C'est très compliqué pour le GIEC de se prononcer sur les solutions.
C'est-à-dire que par essence, le GIEC ne fait pas de recommandations politiques. Je sais qu'on n'arrête pas de lire « le GIEC recommande ceci ou recommande cela ». Dès que vous lisez une phrase qui commence comme ça, vous pouvez être sûr que la fin de la phrase, d'abord, n'est pas contenue comme telle dans le rapport du GIEC et que c'est une instrumentalisation du rapport. Puisque oui, le GIEC ne va pas se substituer, en quelque sorte, à la décision politique. On considère que c'est du ressort des gouvernements de prendre la décision. Et donc, on ne va pas faire de recommandations quant à la décision politique. Alors, c'est une option qui peut être critiquée, qui peut être débattue. On peut dire que c'est une forme de lâcheté, de ne pas prendre position, etc. Je dirais que c'est ça qui garantit aussi que les rapports restent acceptés par l'ensemble des gouvernements et que l'ensemble des gouvernements les utilisent comme le fondement scientifique et de leur politique et de la négociation internationale. Donc, c'est une sorte de trade-off, si je peux employer une expression anglaise, je dirais une sorte de marchandage. On accepte de ne pas faire de recommandations politiques, ni d'ailleurs de ne pas pointer du doigt les bons et les mauvais élèves. Et en échange, on facilite le fait que ces rapports soient quand même acceptés par tous les gouvernements. Il faut rappeler que l'ensemble des 6 rapports jusqu'ici ont toujours été acceptés par tous les gouvernements, y compris lorsqu'ils étaient dirigés par des dirigeants climato-sceptiques comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro.
Mais justement, dans ce cas-là, si vous dites qu'il faut passer de l'alerte à l'action, ne faudrait-il pas qu'il y ait soit une branche du GIEC, soit un autre organisme qui soit se préoccupe de proposer des solutions, de travailler sur la psychologie, parce que je pense qu'il y a aussi un énorme aspect humain qui est peut-être moins scientifique, en sciences dures en tout cas.
Et c'est important de dire qu'il y a des au sein du groupe 3 qui travaillent donc sur les solutions. Il y a des spécialistes des sciences comportementales, de psychologie sociale ou cognitive, etc. Donc ce sont vraiment des travaux scientifiques dont nous avons évidemment besoin, qui sont intégrés dans le troisième groupe. Je dirais qu'un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on publie les rapports, d'abord le premier groupe, puis le second, puis le troisième. On a l'impression que les solutions viennent un peu après et forcément reçoivent un peu moins d'attention. parce que forcément les gens sont plus attirés par ceux qui sonnent l'alerte. Et je crois que c'est plus aussi une question de présentation médiatique. Peut-être faudrait-il présenter les solutions d'abord, ou alors présenter les choses ensemble. Et je crois que c'est très important aujourd'hui que les gens réalisent qu'il y a des choses à faire. Et que on n'est pas dans une sorte de bataille qui serait perdue d'avance. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, a fortiori en France, où c'est en France qu'on trouve le plus de gens défaitistes et pessimistes quant à nos chances d'y arriver.
Et ce défaitisme, c'est parce qu'il est porté par les médias. Il y a une énorme caisse de résonance bien plus forte que dans les années précédentes hein, sur le climat, mais toujours sous l'angle « c'est horrible ce qui nous arrive, il reste quelques années, voilà les taux de CO2 qui ont augmenté, c'est l'année la plus chaude
». Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord effectivement beaucoup d'influenceurs qui vont marteler des messages de peur et des messages d'alerte en permanence auprès des gens. Et malheureusement, c'est ce type de message qui va aussi créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Les gens vont réagir à ce type de message parce que ça va évidemment susciter des réactions chez eux. Il y a aussi le fait qu'on a, particulièrement en France, beaucoup de discours qui donne à penser que la transition énergétique ne pourra pas avoir lieu, parce qu'elle n'a pas eu lieu dans le passé, qu'on va avoir un problème de matériaux, qu'on va avoir un problème de ceci, de cela. Il y a souvent, je trouve, une sorte de focalisation sur toute une série de défauts et d'imperfections. Je suis très frappé que dès qu'on commence à parler du début d'une solution, vous allez avoir une vidéo YouTube de quelqu'un sorti d'on ne sait où, qui va pointer les défauts de cette solution et dire que si jamais on met cette solution en œuvre, ça va être la fin du monde et ça va créer un problème pire que le changement climatique lui-même. Et donc, il y a énormément de désinformation par rapport à la transition. Et puis, je pense qu'il y a malgré tout une sorte de, comment dire, une sorte de pessimisme. Et j'ai l'impression que les informations qu'on nous donne au sujet du climat sont toujours des informations qui sont un peu plombantes. Au point que moi-même, je suis parfois un peu saoulé de ces informations sans cesse plombantes sur le climat. Je suis frappé, par exemple, du traitement médiatique de chaque nouveau record de température. Chaque nouveau record de température est traité comme si c'était un événement exceptionnel et absolument calamiteux. Et on ne réalise pas que c'est quelque chose d'assez mécanique et que tant qu'on envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est-à-dire jusqu'au point de neutralité carbone, ben on sera condamné à battre des records de température. Si vous voulez, c'est un peu comme si on faisait couler un bain dans une baignoire, qu'on ferme la porte de la salle de bain, qu'on rentre 10 secondes plus tard et qu'on se dit « Oh là là, le niveau de l'eau a encore monté ». Et puis qu'on ferme la porte, qu'on ressorte, et 10 secondes plus tard, oh là là, catastrophe, on a battu un nouveau record de niveau de l'eau. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment, quelque part, mesuré, intégré le caractère structurel de cette affaire.
Ce qui m'a frappé aussi dans une de vos interventions, c'est que vous disiez, on se fixe des objectifs à 2050, des chiffres, hein, le moins 1, oui. 5 degrés, les 40% de réduction, enfin voilà, on a des objectifs, mais finalement c'est pas un temps humain, pas un temps de décision, pas un temps d'homme politique ni de chef d'entreprise, et qu'il faudrait plutôt jalonner de points beaucoup plus proches de nous. Est-ce que le GIEC pourrait aider à faire ces points-là justement?
Oui, c'est le genre de choses, je pense, sur lesquelles on pourrait travailler. Je pense que l'erreur qu'on fait parfois en tant que chercheur, c'est d'imaginer que toute une série d'indicateurs, ou toute une série de modèles ou d'horizons temporels qu'on prend, peuvent être, en quelque sorte, traduits comme tels auprès des décideurs et de la population. Pourquoi est-ce qu'on a des objectifs à 2050 ou à 2100? Simplement parce que les modèles climatiques sont souvent calibrés sur ces horizons. Et que donc, on traduit le résultat d'un modèle scientifique en un objectif politique. Sauf que c'est pas du tout la même chose, évidemment. Pareil pour les degrés. On regarde évidemment les augmentations en degrés et on communique cet indicateur à la population. Sauf que les gens ne le comprennent pas du tout de la même manière que les chercheurs. Quand on parle de plus 1 degré ou plus 2 degrés, les gens s'imaginent volontiers que c'est par rapport à la température ambiante et pas par rapport à la température moyenne annuelle mondiale. Et donc, je pense que on pêche un peu parfois par naïveté en imaginant que toute une série d'indicateurs, d'outils qu'on utilise peuvent être communiqués comme tels sans véhicule de traduction, littéralement, auprès de la population, et ça crée malheureusement des biais cognitifs d'interprétation.
C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ces biais cognitifs sont, enfin, maintenant ces chiffres sont devenus des éléments sur lesquels on aura du mal à revenir.
Bien sûr.
Donc, il faudrait presque des chiffres aussi forts arrivent pour
bien sûr.
Dans un an, dans deux ans.
Bien sûr. Prenez l'objectif de 1,5 degré, qui est un objectif d'ici 2100. On sait qu'on va le dépasser vers 2030-2035. Ça va être très compliqué d'expliquer aux gens que ce n'est pas perdu pour autant, qu'il y a moyen d'y revenir en 2100. Et ça va être très compliqué en termes pédagogiques. Et je pense qu'on a sous-estimé la difficulté pédagogique que ça allait créer.
Dans une de vos interviews, vous disiez qu'il faut savoir célébrer aussi des petites victoires. Alors, quelles sont les victoires, notamment, vous parliez de la COP28, de quoi on peut se réjouir, même si tout n'est pas rose. Enfin, on est d'accord, c'est...
Je pense qu'on peut se réjouir du simple fait que vous mettez autour de la table 197 pays, vous les faites discuter de ce qui est quand même leur plus gros problème à régler en commun, et qu'ils parviennent malgré tout à se mettre d'accord sur un texte qui reste critiquable à certains égards, mais enfin qui n'est pas non plus une coquille vide, alors que le monde est plus fragmenté que jamais, que vous avez des pays qui sont en guerre. Sincèrement, dans quelle autre enceinte est-ce que vous parvenez à mettre d'accord sur un même texte Israël et l'autorité palestinienne, l'Ukraine et la Russie, le Yémen et l'Arabie Saoudite, c'est quand même un petit tour de force diplomatique. Et ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler. Alors, bien sûr, on peut toujours dénoncer les insuffisances du texte, mais c'est quand même malgré tout le seul endroit où des pays en guerre se parlent. Et rien que pour ça, je pense que c'est remarquable. Alors maintenant, le deuxième élément, si on regarde le contenu du texte, il y a quand même des points d'avancée majeurs. Le fonds sur les pertes et dommages, c'est quand même quelque chose qui était réclamé depuis des années par les pays du Sud et qui constitue la pierre angulaire de la justice climatique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pays du Sud acceptent de s'engager sur la sortie des énergies fossiles. On voulait, à la COP28, que ce texte traite clairement des énergies fossiles et ne tourne pas autour du pot. Très clairement, c'est le point central de l'accord de la COP28 et donc c'est un élément qu'on peut porter au crédit de la COP aussi. Et puis je trouve que l'engagement sur cette transition hors des énergies fossiles est quand même un engagement tout à fait important. C'est-à-dire que quand on est l'Europe, c'est facile de son point de vue de dire qu'il faut sortir des énergies fossiles parce que forcément vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas de gaz et vous n'avez presque plus de charbon. Donc c'est une position assez facile à tenir. Quand vous êtes un pays du Sud qui compte sur les énergies fossiles pour sa richesse ou pour son développement, dire qu'on va sortir des énergies fossiles d'ici 2050, c'est quand même un engagement qui est autrement plus costaud. Et donc pour moi, ce qui est assez remarquable dans cet accord de la COP28, c'est que on dessine une sorte de point d'horizon commun d'ici 2050. Et cet horizon commun sur lequel on se met d'accord, c'est celui d'un horizon décarboné. Et c'est quand même assez réjouissant, même si on pourra dire tout ce qu'on veut sur les moyens et les contournements que certains vont essayer de prendre pour essayer d'y arriver, sur le fait que chaque pays est évidemment libre de choisir la trajectoire qui lui plaît. Le simple fait de parvenir à dessiner une sorte d'horizon commun à partir de points de départ extraordinairement différents les uns des autres me semble quand même assez significatif. Et je comprends pas pourquoi on a cette tendance à vouer les COP aux gémonies sans réaliser que c'est un problème qui est par essence un problème global, qui par essence requiert une coopération internationale et qu'on n'a pas le choix. Il faut bien trouver des moyens de coopérer ensemble dans un monde qui est très divisé et très inégal et malgré tout parvenir à ces résultats qui sont quand même des indicateurs et des signaux assez forts envoyés aux entreprises et aux marchés, ça me paraît quand même malgré tout assez réjouissant. Et encore une fois, par rapport à ceux qui disent que les COP ne servent à rien, je veux rappeler que sans les COP, on serait toujours sur une trajectoire à plus 4 degrés.
Et comment on donne envie d'agir ou même de voter pour le climat? Parce qu'on voit effectivement une forme d'éco-anxiété qui est assez majeure, ne serait-ce qu'en France, mais quand même un peu partout dans le monde. Mais on voit aussi des gouvernements revenir en arrière ou des politiques rebasculer.
Bien sûr. Je pense qu'à force, en quelque sorte, de sonner l'alerte en permanence et d'avoir une communication sur le sujet qui, il faut bien le dire, est un peu plombante et déprimante, ça crée chez beaucoup un sentiment de lassitude, voire de rejet. Même moi qui travaille sur cette question, j'avoue que lorsque j'entends à la radio ou à la télé encore un xième sujet sur le climat, il m'arrive de zapper et de me dire « Ah non, pas encore un truc sur le climat ». Parce que je sais que ça va être quelque chose d'assez plombant. Et je pense que c'est ça aussi qui va générer une forme de rejet chez beaucoup, parce qu'ils vont avoir l'impression que l'action contre le changement climatique, c'est une liste de choses dont on n'a pas envie. De sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, de coûts supplémentaires à absorber, d'efforts à fournir. C'est d'ailleurs une liste longue comme le pain de trucs dont on n'a pas envie. Et je pense que si on a cette impression de l'action climatique, c'est parce qu'elle est associée à la vision d'un monde vers lequel on ne veut pas aller. C'est le monde décrit dans les rapports du GIEC, ravagé par les impacts du changement climatique. Et donc, on sait ce vers quoi on ne veut pas se diriger. Mais par contre, on n'a pas du tout de vision claire de ce vers quoi nous voudrions aller et de ce à quoi pourrait ressembler un monde décarboné. Et donc, c'est ça, je pense, qui nous empêche de voir l'action climatique comme un projet. Et à mon avis, c'est là que ça coince et c'est ça qui va générer une certaine forme, je dirais, de populisme ou de rejet, parce qu'on va avoir l'impression que l'action climatique est une contrainte qui nous tombe dessus et que donc on va forcément essayer soit d'échapper à cette contrainte, soit d'en faire le moins possible, et que cette contrainte va nous diviser parce qu'on va toujours trouver qu'elle est inéquitablement répartie.
Donc ça appelle de nouveaux récits, une nouvelle vision positive de ce que c'est qu'un avenir un peu désirable. Que le GIEC, plutôt que de présenter juste tous les scénarios catastrophes, est-ce qu'il peut être un des réceptacles ou un des propos?
Oui, je plaide depuis longtemps pour qu'on fasse des sortes d'anti-rapports du GIEC. C'est-à-dire qu'on les rapports montrent en quelque sorte ce qui va se passer si on n'agit pas. Et je pense qu'il faudrait montrer ce qui peut se passer si on agit. Et ça me paraît très intéressant. Et c'est un renversement, évidemment, de la table en matière de communication.
Et ça, comment vous pourriez le porter auprès des autres?
Mais d'abord, il faudrait que les gouvernements commandent ce type de rapport. Il ne faut pas oublier que
j'imagine que vous pouvez leur susurrer.
On peut leur susurrer, on peut leur suggérer, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut un accord de l'ensemble des gouvernements et qu'il faut bien reconnaître qu'il y a parfois une sorte de phénomène de dépendance de sentier. C'est une sorte de phénomène bien connu en sciences politiques, c'est la tendance à refaire sans cesse ce qu'on a déjà fait parce qu'on a toujours fait comme ça. Et donc typiquement, on enregistre ce podcast le 22 janvier, la semaine dernière s'est tenue à Istanbul l'Assemblée générale du GIEC. Et le principal point à l'ordre du jour, c'était le format du 7e rapport du GIEC. Les gouvernements étaient consultés, on s'était dit, est-ce qu'on reprend pour le 7e rapport le format du 6e, c'est-à-dire 3 groupes de travail et 3 rapports différents, puis un rapport de synthèse, ou alors est-ce qu'on va faire des rapports beaucoup plus courts et beaucoup plus synthétiques, ou alors est-ce que potentiellement on ne fait que des rapports spéciaux, c'est-à-dire des rapports qui touchent à un objet spécifique. Et de façon assez intéressante, les gouvernements ont décidé de refaire pour le 7e exactement ce qu'on avait fait pour le 6e. Comme le 6e reproduit le format du 5e, etc. Et donc, je comprends évidemment qu'on ait eu cette logique-là au moment du premier rapport, quand il s'agissait de sonner l'alerte, quand il fallait en quelque sorte répartir un peu aussi les chercheurs par discipline et par champ disciplinaire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'état de la discussion, du débat n'est plus du tout le même sur le changement climatique. Et moi, je plaiderais effectivement pour que le format des rapports évolue. Mais pour ça, il faut mettre d'accord 197 gouvernements qui vont avoir tendance à se dire, voilà, on a fait comme ça dans le passé, on sait que c'est un point sur lequel on est d'accord, sur lequel on peut avoir un compromis, donc on va le reproduire dans le futur. Et c'est un problème.
Alors, ça m'amène une question sur la notion de courage. Comment on mobilise le courage des dirigeants, des hommes, des femmes politiques? On voit bien que c'est difficile de prendre des décisions si les électeurs ne veulent pas d'une loi ou si les actionnaires ne veulent pas d'une mesure. Comment on mobilise le courage?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une difficulté, je pense, aujourd'hui, de la démocratie représentative, c'est que les dirigeants vont se placer à la remorque de l'opinion. C'est très frappant, par exemple, quand on regarde le discours des politiques sur la récente loi sur l'asile et l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se demander est-ce que cette loi est bonne, est-ce qu'elle est juste, etc. L'argument, c'est il faut voter cette loi parce que les Français la demandent. La question n'est pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise loi, mais j'étais frappé de voir que c'était l'argument mis en avant dans l'opposition. Nous devons voter cette loi parce que les Français la demandent. Pas parce qu'elle est nécessaire, pas parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle est juste. Et je crois qu'il y a une tendance, effectivement, à se placer à la remorque d'opinion et à gouverner en fonction des sondages plutôt qu'à se placer, je dirais, dans la locomotive et d'essayer de voir comment on peut aussi façonner l'opinion sur un sujet.
C'est rigolo parce qu'à l'inverse, l'opinion se dit « j'attends de l'État de me proposer ou d'agir ».
Mais bien sûr, et singulièrement en France, où il y a des attentes très fortes par rapport au rôle de l'État, au rôle des pouvoirs publics, mais à qui on ne confie jamais vraiment non plus ce mandat.
Donc il y a en fait un problème de responsabilité individuelle, de prendre sa responsabilité là où on est.
Oui, ou de dissonance cognitive, par exemple. Je regardais un sondage absolument fascinant qui était fait auprès des acheteurs et des acheteuses de la marque Shein, qui est donc une marque vraiment de fast fashion, je dirais une des pires marques responsables du changement climatique aujourd'hui. Et ce que le sondage montrait, c'est que les consommateurs de Shein étaient des consommateurs qui se définissaient comme beaucoup plus éco-responsables que les autres. Donc quand on leur demande « est-ce que c'est important pour vous d'avoir un comportement d'achat éthique, un comportement d'achat responsable ?» Quand on leur demande « est-ce que vous allez plutôt privilégier des produits fabriqués de façon éthique et durable ?»« Est-ce que vous allez être attentif aux conditions de fabrication ?» Il y avait un écart énorme entre ceux qui consommaient Shein et le consommateur lambda. Donc le consommateur, la consommatrice Shein se définissait comme beaucoup plus éco-responsable. Mais ça ne l'empêchait pas d'acheter des vêtements chez Chine. Donc, nous sommes sans cesse dans ces contradictions et dans ces décalages. De la même manière qu'on attend énormément de l'État, on dit l'État devrait faire ceci, le gouvernement devrait faire cela, mais au moment du vote, on ne donne jamais ce mandat à l'État. Et quand l'État prend des mesures, il doit souvent faire face à des oppositions très fortes de la part de la population. Et donc, forcément, ce n'est pas incitatif pour l'État à faire quoi que ce soit.
Alors, je crois que vous êtes professeur à HEC. Qu'est-ce que vous enseignez à ces futurs dirigeants ?
Alors, je dirige un master d'HEC consacré à ces questions de durabilité et d'innovation sociale, qui est, je dirais, la manière dont on va, quelque part, essayer de faire rentrer dans le monde de l'entreprise ces questions de durabilité et d'innovation sociale qu'on définit aujourd'hui un peu largement sous la question de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et qui devient effectivement un aspect de plus en plus important de la vie de l'entreprise, sur lesquels les entreprises vont désormais devoir faire du reporting. Ça veut dire qu'on va juger la prospérité, la performance d'une entreprise, pas seulement à l'aune de ses résultats financiers, mais aussi à l'aune de ses résultats extra-financiers. Et ça, c'est quand même un pas dans la bonne direction qui me paraît très, très important, même si dans l'immédiat, ça va faire un peu de bureaucratie et de paperasse pour les entreprises. Et on voit bien, moi c'est une évolution que je constate quand même depuis quelques années, c'est que les départements RSE des entreprises, qui jadis c'était parfois un peu la petite chapelle sur le côté, deviennent désormais des départements de plus en plus importants dans la manière dont l'entreprise va concevoir son activité. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez nettement, au point que les plus conservateurs et les plus rétrogrades aux États-Unis commencent à s'en inquiéter. Ils commencent, je pense qu'un des faits d'actualité les plus surréalistes de ce début d'année 2024, c'est quand même l'État du Tennessee qui attaque BlackRock, le fonds d'investissement, en justice, en reprochant à BlackRock d'être trop ambitieux en matière environnementale et donc de ne plus rechercher uniquement le profit et donc de tromper ses investisseurs. C'est quand même le monde à l'envers. Parce qu'on peut pas dire non plus que BlackRock soit, c'est pas Patagonia non plus, BlackRock, c'est pas un champion du climat, donc je veux bien qu'ils font des trucs, et c'est très bien, il faut les encourager à en faire davantage, mais c'est certain que si ce qu'ils ont en réponse à un relèvement de leur engagement environnemental, c'est des procès de la part des États, ça veut dire malheureusement qu'on risque de pas attendre grand chose du politique.
Est-ce qu'on peut se dire que c'est une bonne nouvelle et qu'ils ont réussi à faire bouger les choses, ou au contraire, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est plutôt un revirement du politique?
Allez, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut se dire, tiens, c'est la preuve que les questions de RSE commencent à devenir vraiment des actions importantes et commencent à compter politiquement et économiquement. La mauvaise nouvelle, c'est que si ce type de procédures sont engagées, ben, beaucoup d'entreprises aux États-Unis vont évidemment y réfléchir à deux fois avant de s'engager dans une politique RSE ambitieuse.
Et comment on mobilise la finance ? Parce que vous disiez, c'est un peu le nerf de la guerre, ne serait-ce que pour les pays émergents. Mais de manière générale, c'est finalement le nerf de la guerre de ces entreprises. Vous parliez des actionnaires, finalement, la tromperie sur actionnaires, sur le profit, c'est quand même assez incroyable. Comment on mobilise ? Parce que finalement, tout le monde a cette notion de sens et l'envie. Enfin, je vois naître autour de moi énormément de gens qui ont envie de rentrer du sens dans leur action oui. quotidienne au travail. Et donc, la finance, elle n'est pas exempte de ces envies-là.
Elle n'est absolument pas exempte de ces envies-là, à la fois parce que c'est quelque chose qui, effectivement, peut donner du sens aux ceux qui travaillent dans la finance. Et il y en a beaucoup, ils sont souvent, d'ailleurs, notamment des gens sortis du HEC. Je le vois bien avec mes étudiants, dont beaucoup vont aussi se destiner à des métiers de la finance et attendent que la finance devienne un peu plus durable et plus responsable et donc soit alignée avec les valeurs qu'ils entendent se donner. Et d'autre part, la bonne nouvelle, c'est que la finance climat ou de la transition devient de plus en plus rentable. Les énergies renouvelables ou décarbonées sont de plus en plus rentables, attirent désormais beaucoup plus d'investissements que les énergies fossiles. Et il est certain que je pense que l'instrument ultime pour vraiment faire basculer tout ça, ça serait une taxe carbone qui permettrait véritablement de rendre toute une série de biens et services décarbonés beaucoup plus compétitifs que les biens et services de l'économie carbonée. Et à mon avis, ça serait vraiment ça qui permettrait de faire la bascule, même s'il n'y a pas que ça. Par exemple, l'idée avancée par Emmanuel Macron d'avoir des taux d'intérêt différenciés sur les investissements très carbonés et les investissements décarbonés, ça me paraît aussi être une idée qui va dans la bonne direction.
Et c'est quelque chose qui peut être discuté en COP ?
Absolument, et notamment à la COP 29, qui sera une COP consacrée à la finance, parce qu'on réalise bien que les COP deviennent de plus en plus thématisées, en quelque sorte. Donc on a eu la COP 28, qui a vraiment été consacrée à la question des énergies fossiles. La COP 29 sera consacrée à la finance, et la COP 30, au Brésil, on imagine, à la déforestation et à l'agriculture.
Comment garder la motivation de ceux qui sont motivés et comme vous et qui au quotidien finalement se battent contre des gens qui ont plutôt envie de casser le moral?
C'est parfois assez assez délicat, notamment vis-à-vis de toute une série de gens inquiets sur les réseaux sociaux qui vont propager toute une série d'alertes en pensant que leur rôle c'est vraiment de sonner l'alerte, etc. Et de se dire, voilà, nous partageons le même objectif, mais pas forcément les mêmes moyens d'y arriver. Et je pense que les moyens que vous utilisez peuvent même être contre-productifs par rapport à l'objectif que vous recherchez. Donc, je pense qu'il y a une vraie nécessité d'une forme de dialogue sur ce sujet. Et la grande difficulté, qui parfois pour les gens n'est pas toujours compréhensible, c'est de dire comment se fait-il que des gens, les gens s'imaginent que tous les gens qui travaillent sur le climat vont forcément tous être d'accord entre eux spontanément. Et je leur dis toujours, mais tous les économistes souhaitent la prospérité de l'économie. Pourtant, on se rend bien compte qu'un économiste marxiste ne va pas tout à fait défendre les mêmes moyens qu'un économiste néolibéral. Et pourtant, ils sont tous les deux économistes et ils vont tous les deux chercher à maximiser la prospérité des économies. Et donc, je pense qu'il faut, quelque part, une certaine maturité aussi dans le débat public pour reconnaître qu'il y a différentes façons d'envisager la transition, la lutte contre le changement climatique. Et que parfois, il va falloir choisir entre l'une ou l'autre et qu'on a parfois eu la naïveté de penser que ça allait être une sorte de grand consensus naturel. Mais ça pose des questions tellement fondamentales sur l'organisation de l'économie et de la société que par nature, il n'y a pas de consensus et qu'en démocratie, il va falloir choisir vers où on veut avancer. Donc ça, c'est un premier point très important. Et puis l'autre point, c'est que je pense qu'il faut... on en est à un moment où il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Et moi, je crois vraiment, en tout cas, c'est un peu l'éthique que je me donne, c'est de me dire, voilà, si je ne jette pas toutes mes forces dans la bataille maintenant, je risque bien de le regretter amèrement plus tard, et je me dirai, quand j'aurai 80, 90 ans, est-ce que tu n'aurais pas pu y consacrer encore un peu plus de temps et un peu plus d'énergie à l'époque, au moment où on en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin? Et c'est maintenant qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et ça me paraît être très, très important parce que chaque action va compter et qu'on est vraiment dans un problème graduel. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir faire va avoir une énorme importance et parfois une importance qu'on n'imagine pas toujours.
Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser des questions rapides. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir?
Quand je vois que malgré tout, à chaque COP, on est capable de réunir tous les pays pour réfléchir ensemble à ce qui est notre plus grand défi et à quand même à sortir de chaque COP, à l'exception d'une, la COP 6, avec une forme d'accord entre nous. Moi, je trouve que les COP, c'est un des moments de l'année dont je ressors assez rempli d'espoir.
Génial. Et est-ce qu'il y a des personnes motivantes ou des histoires motivantes que vous avez eues cette année ?
Il y en a plein, tout le temps. C'est-à-dire que les histoires les plus motivantes que je trouve, c'est avec les gens qui œuvrent concrètement, directement à la transition. Avec des ouvriers du bâtiment qui vont aller mettre des panneaux solaires ou changer les châssis. Avec des ouvriers qui vont essayer de décarboner la route, d'équiper les autoroutes de bornes de recharge électrique. Et pour moi, c'est les histoires les plus inspirantes et les plus motivantes avec ceux qui font concrètement la transition et qui ne sont pas juste dans l'incantation.
Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous avez envie de partager, qu'on vous a donné, qui vous sert aujourd'hui et...
Revoir autant que possible la finale de la Ligue des Champions de 2005 entre Liverpool et Milan. Liverpool est mené 3-0 à la mi-temps, mais ils vont finir par gagner le match. Et voilà, il faut se dire qu'on est à la mi-temps et que je pense que si les joueurs du Liverpool s'étaient dit à la mi-temps, oh là là, mais on va jamais réussir à arriver parce qu'on n'est pas arrivé en première mi-temps, donc comment pourrions-nous y arriver en seconde mi-temps ? S'ils se disaient, oh là là, mais il faut changer complètement les règles du jeu parce qu'avec ces règles du jeu, on parviendra jamais à remonter le score, je pense sincèrement que Liverpool aurait perdu la partie. Ils se sont juste dit, tiens, on va mettre les buts un à un et on va avancer, et au final, ils ont gagné.
Génial. Et dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast ?
Il y a beaucoup de gens. Je pense qu'une voix que je trouve assez inspirante en ce moment, c'est Anna Ricci, qui est une des éditrices d'un site que tout le monde consulte, qui s'appelle Our World in Data, et qui parvient à montrer, avec l'analyse précise des données, comment il est possible d'y arriver, et comment il y a des trucs qui s'améliorent, et comment malgré tout, on a progressé au cours des dernières années.
Génial. Un très grand merci, François Gémen.
Merci à vous, très volontiers, Valérie.
Merci, François Gémen, c'était absolument passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est que les véritables membres du GIEC ne sont pas les chercheurs, mais les 197 gouvernements qui commandent ces rapports. Ce qui explique pourquoi le GIEC ne prend pas de position sur les solutions politiques à apporter au dérèglement climatique. La deuxième, c'est que grâce à ces travaux et aux COP, on a permis non seulement de modifier la trajectoire du réchauffement et passer de 4 à 3 degrés de réchauffement, mais aussi, avec la COP28, ça a permis de donner un horizon commun aux 197 pays qui pourtant partaient à la base de visions très différentes. Et enfin, troisième idée, selon François Gémen, il serait utile de modifier les messages et de passer de l'alerte aux solutions. On a besoin de jeter toutes nos forces dans la bataille et les messages plombants sur le climat risquent d'être contre-productifs. Vous avez appris des choses ? N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.